7, 6, 9, 5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
0.
Et le reptile.
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Il est 6h avant minuit, vous écoutez bien Syllab. Ce soir, je voulais vous parler d'un dessin griffonné. Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, est à genoux et tend un sac siglé du signe du dollar à une statue représentant Donald Trump. À ses côtés, l'inventeur de Facebook, Mark Zuckerberg, le patron de l'entreprise d'intelligence artificielle OpenAI, Sam Altman, le propriétaire du Los Angeles Times, Patrick Soon-Shiong, mais aussi Mickey Mouse, représentant de la Walt Disney Company, elle-même propriétaire d'ABC News. Tous tendent leurs offrandes au président élu des États-Unis. Le problème de ce dessin, il n'a pas été publié par le Washington Post. Le quotidien affirmait que ce rejet avait été émis alors qu'un éditorial sur le même sujet venait d'être publié et qu'un autre était prévu. Mais voilà, la créatrice de ce dessin, Anne Telnais, dessinatrice pour le Washington Post depuis 2008 quand même, et lauréate du prix Pulitzer du dessin de presse, accessoirement, explique qu'aucun de ses croquis n'a jamais été rejeté jusqu'à celui-ci. Selon elle, le dessin, qui a été étouffé, critique les patrons et milliardaires de la tech et des médias qui font tout pour s'attirer les faveurs du président élu, des patrons et milliardaires dont l'un d'eux, Jeff Bezos, est aussi, bah tiens, le propriétaire du Washington Post, Jeff Bezos, si bien représenté dans l'illustration. Celui-là même qui, pendant le premier mandat de Trump, avait empêché le journal d'appeler à voter pour Kamala Harris, alors que les recommandations de vote par les comités de rédaction sont une tradition aux États-Unis. 10 ans après les attentats de Charlie Hebdo, le dessin de presse ne dérange visiblement pas que les extrémistes religieux. Tout de suite, le flash d'Eva.
Les drones ont réussi à distraire les défenses aériennes russes, ouvrant la voie aux missiles qui ont atteint les cibles principales. Un objectif atteint pour l'armée ukrainienne qui a déclaré aujourd'hui avoir fait exploser dans la nuit d'hier à aujourd'hui une usine chimique russe fabriquant des explosifs dans la région de Bryansk. Munitions pour l'artillerie, pour lance-roquettes ou encore des missiles de croisière, Kiev affirme que les drones ont aussi frappé d'autres infrastructures russes à proximité impliquées dans la guerre en Ukraine. Plus éloignés de la frontière ukrainienne cette fois, des sites énergétiques et industriels ont également été touchés dans la République du Tatarstan ainsi que dans la région de Saratov. Le gouvernement local assure sur Telegram que personne n'a été blessé mais qu'une citerne à gaz a pris feu à Kazan et 2 entreprises industrielles ont été endommagées. Aujourd'hui, 15h, le Premier ministre français François Bayrou a prononcé sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Petit point sur les grandes lignes de ce discours. Après des mois de colère des agriculteurs et agricultrices sur les normes et contrôles agricoles, François Bayrou s'engage à, je cite, « ce que nous remettions en question les pyramides des normes, ceux que l'on contrôle doivent avoir leur mot à dire sur les contrôles et s'il faut des remises en cause, nous les conduirons avec eux dans un temps bref ». Alors que le gouvernement de Michel Barnier avait proposé en 2024 une mesure de déremboursement de certains médicaments et des consultations, le Premier ministre a annoncé ne pas reprendre cette mesure pour protéger les plus fragiles. Enfin, en tant que fervent défenseur du scrutin proportionnel pour les élections législatives, le chef du gouvernement français a déclaré que, je cite, « nous avancions sur la réforme du mode de scrutin législatif ». Pour lui, la proportionnelle est la seule règle qui permet à chacun d'être lui-même authentiquement, sans être prisonnier dans des alliances insincères. Et dans 2 jours, nous voterons la censure contre le gouvernement. Est-ce ce qu'a assuré la chef des députés écologiques, Cyrielle Chatelain, seulement quelques minutes après la fin du discours de François Bayrou. À partir du 6 juin prochain, si vous allez sur le canal 12, il est possible que vous tombiez sur un épisode des Totally Spies.
Ouais.
Pourquoi, Héloïse?
Bah, eh bien, tu vas me le dire, Eva.
Je vais te le dire, parce que Gulli va prendre la place de Energy 12. Mais ce n'est pas tout, a annoncé hier le régulateur général de l'ARCOM. 9 chaînes de la TNT vont changer de numérotation à partir de juin 2025, en raison de la disparition de C8, Energy 12, et de la décision de Canal+, de quitter la TNT. France 4 sera donc sur le canal 4, LCP et Public Sénat sur le canal 8, et les quatre chaînes d'information vont être regroupées sur les fréquences 13, 14, 15 et 16, dans le même ordre qu'actuellement, BFM, CNews, LCI et France Info TV. Nous avons hérité du numéro 13 et le numéro 13 va être directement derrière une chaîne jeunesse. Les images de l'information sont souvent un peu difficiles, confie Nicolas de Taverneau, président du groupe RMC BFM aujourd'hui sur France Info. Mais Roch-Olivier Maistre, président de l'ARCOM, soutient ce choix que, je cite, « pour le spectateur, ce sera beaucoup plus confortable de pouvoir dérouler de 13 à 16 l'ensemble des chaînes d'info. » Réussir un tour du monde en 64 jours, seul, sans escale et sans assistance, vous n'y croyez pas ?
Non.
Jules Verne is shaking.
Ne vous en faites pas, Jules Verne non plus. C'est pourtant l'exploit
S'il
du
avait
vainqueur.
Su.
Eh oui. Mais c'est pourtant l'exploit du vainqueur de la 6e édition du Vendée Globe, la 10e. Plus grande course. 10e.
Oui.
Oui. À la voile du monde. Charlie Dalin, skipper et architecte naval normand, est arrivé ce matin au Sable d'Olonne. Aglaé nous en dit plus.
Dès 6h ce matin, les premiers supporters en bateau vont à sa rencontre, l'accompagnant vers sa victoire. 2 heures plus tard, il est rejoint par une dizaine de bateaux et franchit à 8h24 la ligne d'arrivée. Après avoir été bloqué quelques heures par la marée, il a enfin pu remonter le chenal et savourer son exploit auprès de ses proches et des milliers de personnes venues l'accueillir. Cela marque donc la fin de son périple de 27 668 miles, soit environ 44 527 km à 17,79 nœuds en moyenne. Pendant 64 jours, 19 heures, 22 minutes et 49 secondes très précisément, il a été confronté à la fois aux vagues, au vent et au froid. Mais ce temps est surtout un véritable record. Jamais dans l'histoire du Vendée Globe ou l'Everest des mers, un skipper ou une skippeuse n'a mis aussi peu de temps pour revenir au point de départ. Il bat donc le temps d'Armel Lecléac lors du Vendée Globe de 2016 de 9 jours et 8 heures. C'est aussi une grande revanche pour le skipper normand, 4 ans après sa deuxième place au Vendée Globe derrière Yannick Bestaven. Mais avant même le départ de cette édition, Charlie Dalin était considéré comme le favori car il a l'un des palmarès les plus impressionnants. Ces dernières années, il a notamment gagné la Transat New York Vendée en 2024, la Rolex Fastnet Race en 2023 et la Vendée Arctic en 2022.
Mais est-ce qu'on peut revenir sur les grandes étapes de sa course, Aglaé ?
Pas de problème, Eva. Dès le lendemain du départ, le 10 novembre, il se place en leader de la course, mais n'occupe cette position que pour une journée. Le 17 novembre, alors qu'il est 27e, il est à 338 km environ de Jean Le Cam, alors premier. Et c'est à ce moment qu'il est le plus loin du leader et de la victoire de toute sa course. Mais c'est sans compter son record entre l'Équateur et le Cap de Bonne-Espérance le 29 novembre. De plus, le 4 décembre, il fait face à une forte dépression dans l'océan Indien. Tous les skippers et skippeuses, sauf lui et Sébastien Simon, vont alors vers le nord, mais eux poursuivent leur avancée et prennent l'avantage. Le 9 décembre, alors qu'il est au cap Leeuwin, au sud de l'Australie et en tête depuis environ une semaine, il s'offre un nouveau record entre Leeuwin et Bonne-Espérance de 9 heures. Le 17 décembre, Charlie Dalin cède sa place pour la première fois depuis 2 semaines à Johan Richaume, son rival de longue date, puis à Sébastien Simon. À partir du 30 décembre, il maintient sans discontinuer sa place de leader, sans pour autant que Johan Richaume ne soit très loin. Charlie Dalin est d'ailleurs bon joueur et s'est exprimé ce matin à ce propos. Avec Johan, ça a été un match incroyable, bravo à lui. C'était comme s'il faisait son 3e et son 4e Vendée Globe. C'est grâce à Johan si j'ai pu faire le tour du monde en si peu de temps. Ça m'a forcé à renvoyer de la toile, des riz et à être sur les réglages, à tout donner. Et il conclut en disant « Je suis l'homme le plus heureux du monde ».
Merci Aglaé. On précise que 33 skippers et skippeuses sont encore actuellement en mer et sont attendus entre fin janvier et début mars. La deuxième place attend par ailleurs Johan Richaume, qui devrait arriver aujourd'hui ou demain entre 21h et 3h du matin. Chers auditeurs, chères auditrices, vous méfiez-vous assez de nous ? Eh oui.
Vous devriez.
Selon la 38e édition du baromètre La Croix Vérand La Poste, 62% des Français et Françaises pensent qu'il faut se méfier de ce que disent les médias sur les grands sujets d'actualité. un chiffre qui a augmenté de 5 points en seulement un an. Toujours selon le baromètre, les personnes sondées de manière générale font davantage confiance à leurs proches ou aux journaux télévisés d'information qu'aux émissions et débats d'actualité comme la nôtre. Mais, ouais, du tout. Mais c'est surtout des influenceurs et des réseaux sociaux que les Français et Françaises se méfient principalement.
Ah, quand même.
Tout de même.
Ouf.
D'autres chiffres sont intéressants et ressortent comme le sentiment d'angoisse et d'impuissance de la population française face aux informations qui est en hausse de 3%, avec 41% en janvier 2025 contre 38% en novembre 2023. Par contre, cette fatigue informative n'affecte pas grandement l'indice d'intérêt des Français et Françaises pour l'actualité, qui reste très haut, 76% exactement. Et on vous en remercie. Un grand soleil, mais un froid dans les négatifs s'installe depuis quelques jours dans la métropole rennaise et s'accompagne d'une hausse de pollution de l'air. En effet, après 3 jours de hausse de la concentration des particules fines dans l'air rennais, la pollution va continuer de s'aggraver et un pic de pollution va être atteint demain, selon l'organisme de mesure de qualité de l'air. Air Braise explique à Ouest France que les conditions climatiques actuelles favorisent l'accumulation des particules fines PM10 et 2,5, ce qui représente les tailles des particules en micromètres, autour de la ville. Plus précisément, un grand froid qui nous fait augmenter notre chauffage associé à l'absence de vent pour disperser les polluants. La préfecture exhorte les personnes fragiles de limiter leur sortie, surtout au moment où l'ensoleillement est le plus fort. Attention, si vous songez à vous garer à la place du Parlement de Bretagne, rue Salomon de Brosse et rue Hoche, dans sa section comprise entre la place du Parlement et la rue Salomon de Brosse, dans les prochains jours, écoutez attentivement mon message. À partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi prochain, mais également du lundi 20 janvier au vendredi 24 janvier, la circulation et le stationnement dans ces rues et places sont interdits d'accès. Seuls les véhicules, les riverains et de livraison sont autorisés avant 8h du matin et après 20h, de cigarer. Ce plan de circulation temporaire dans l'hypercentre rennais est mis en place pour des raisons de sécurité dans le cadre du procès Gomorra, qui commence aujourd'hui à la cour d'assises. 4 hommes nantais sont jugés à des degrés divers pour tentative de meurtre ou complicité de tentative de meurtre et pour association de malfaiteurs et détention d'armes. Et 3 autres répondent uniquement des délais connexes, tout ça datant de 2019. Tiens. Dans notre boîte mail, nous avons une nouvelle carte postale sonore des Pécroutes. Souvenez-vous, cette famille d'Ille-et-Vilaine était partie pour un tour du monde en septembre dernier. Emmanuel, le papa, nous donne quelques nouvelles.
Si vous avez bien suivi, nous étions en Thaïlande et maintenant nous avons traversé une frontière pour arriver au Cambodge. Et on a traversé la frontière par le train. Alors arrivé au Cambodge, petite spécificité, on paye en kip, la monnaie locale, ou en dollars. On a démarré par les temples d'Angkor, au Cambodge. De nombreux temples construits en pierre magnifique, qu'on a pu visiter durant 3 jours, en loin des scooters, avec les enfants. Et on s'en est vraiment pris plein la vue, dont un coucher de soleil et un lever de soleil. On a été voir aussi un refuge d'éléphants. Ce sont des jeunes qui récupèrent des éléphants dans les fermes. Globalement, les éléphants sont encore utilisés au Cambodge dans les fermes pour aider les fermiers. Et en très grande majorité, ils sont enchaînés, ils ont très peu de liberté. Et donc, dans ce refuge-là, les éléphants sont en semi-liberté et réapprennent, si on peut dire, à vivre. On est aussi allé voir une troupe de cirque, parce qu'au Cambodge, ils sont quand même réputés pour ces spectacles. Et c'était une troupe de cirque particulière, puisqu'elle forme des jeunes en réinsertion toute l'année. Donc on a plutôt très bien apprécié ce moment. Agathe, on a profité pour faire signer quelques autographes à la troupe. Et Marceau, lui, on a profité pour acheter des balles de jonglage et s'amuser tout au long du voyage avec. On a terminé le Cambodge par une île, de quoi se relaxer, se reposer pour enchaîner sur la suite de notre voyage. Mais on n'a pas oublié tout ça au niveau du Cambodge, leur histoire, puisqu'on a vu des musées, puis on a également échangé avec plusieurs Cambodgiens. L'histoire du Cambodge, elle est quand même relativement difficile. Elle est aussi récente, avec la guerre civile et les Khmers rouges. On a rencontré plusieurs personnes dans nos âges, qui ont vu des choses horribles, qui nous ont donné pas mal d'éléments, de détails, ce qu'ils ont connu quand ils avaient environ 10 ans. Ils entendaient des choses la nuit, ils voyaient des choses la journée, ils sont encore marqués, globalement, dans leur mémoire. Mais ça reste une population très ouverte et vraiment très, très généreuse.
Dans ce café, près de chez elle, l'après-midi, au rendez-vous.
Merci Héloïse. Quelle belle
musique cambodgienne.
Et on a hâte d'écouter les prochains épisodes des Pécroutes, surtout.
En français dans le texte. Merci les Pécroutes, on vous embrasse, on a hâte d'entendre la suite de vos aventures en effet. Et merci Eva pour ce flash. Nous avons une invitée en studio ce soir.
Il est midi,
la radio sauvage.
Minuit.
À minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Qui reçois-tu donc Aglaé ce soir?
Un pull bleu électrique et une coupe courte. Ce soir, nous recevons Aude Chalemel-Durosier, programmatrice ado-adulte et coordination des pratiques amateurs de la paillette. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors tout d'abord, pour commencer, qu'est-ce que c'est la paillette pour ceux qui et celles qui ne connaissent pas?
Alors la paillette, c'est une MJC qui se situe au bout du mail François Mitterrand, au beau milieu du parc Saint-Cyr. N'hésitez pas à être curieux et curieuse. L'espace est magnifique. On a deux bâtiments. Un ancien lavoir et tout en pierre avec une grande cheminée en briques et puis un théâtre. Et on gère les deux espaces avec une multitude d'activités dont on va sans doute parler.
Effectivement. Et là, la deuxième saison va commencer fort avec le 6 février à 20h, le spectacle Maillot jaune de Julien Gallardon de la compagnie Roiseau Théâtre. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui, alors après les épopées du Vendée Globe, on vous propose un tour sur les routes de France avec ce spectacle qui s'intitule Maillot jaune. Et en fait, Julien Gallardon, c'est une sorte de géotrouve-tout bricoleur qui a décidé de s'embarquer sur le Tour de France et de nous montrer un peu quelle était cette épopée que le Tour de France, donc à coup d'interviews, de grandes échappées, de grandes embardées. Il nous raconte un peu une métaphore et philosophique de ce que peut être le Tour de France.
Mmh. Et c'est une sorte de métaphore de quête de la victoire, si j'ai bien compris.
C'est ça. Qu'est-ce qu'on gagne à être sur les Tours de France? Qu'est-ce qu'on met en jeu soi-même aussi personnellement? C'est une création. Il a créé le spectacle juste avant Noël. Et donc là, on aura les prochaines représentations. Il vient retravailler quelques jours à la paillette. Donc il sera quelques jours dans les locaux. Et puis, et ensuite, il s'embarque sur ses représentations rennaises.
Et il n'y a plus beaucoup de place, je crois.
Non, il n'y a plus beaucoup de place, dépêchez-vous. C'est encore possible de réserver, donc n'hésitez pas.
Ensuite, le 27 et le 28 février à 20h, ce sera autour du spectacle Déraillé. De quoi est-ce qu'il est question dans cette création?
Alors là, ce n'est pas le Tour de France qui déraille.
On a l'impression de rester dans le thème. Mais
pas du tout. C'est un hasard. Non, en fait, c'est une compagnie, la compagnie Didom, c'est une compagnie du Finistère, de Brest, qui a décidé de là nous embarquer à bord d'un train sur les questions de la normalité, de la folie. Donc, qu'est-ce qui se passe à bord d'un train qui s'arrête en pleine voie et où il y a une foule de personnes dans le train qui vont réagir de façon mesurée ou démesurée et jusqu'où tout ça va nous embarquer. Donc là, on est à bord d'un train, il y a un vrai wagon de train qui est représenté sur scène avec tout un tas de personnages, je dirais, mystérieux et haut en couleur qui vont débarquer. C'est une création. Donc, ils sont venus en résidence à la paillette juste avant les vacances de Noël. Ils ont travaillé une semaine au plateau. C'était un joyeux bordel. C'est une compagnie qui vient du théâtre d'objets, donc il y avait plein de choses au plateau. Et puis voilà, là, on aura la chance d'avoir les premières, je dirais, représentations au mois de février.
Et je crois que ce spectacle, en plus donc qu'il y a un wagon sur scène, si j'ai bien compris, c'est qu'il y a une intégration des spectateurs et spectatrices, c'est ça?
C'est ça, c'est-à-dire que les spectateurs et spectatrices sont à bord du train et participent au voyage par leur réaction également.
Et comment ça se passe pour y participer? Est-ce que n'importe qui peut y aller?
Oui, alors il y a un appel à participation effectivement, qui a toutes les informations sur notre site internet, vous pouvez vous inscrire. L'idée c'est que vous veniez répéter avec la compagnie il y a deux soirs dans la semaine de mémoire, et puis les représentations ensuite.
Il n'y a pas besoin d'avoir fait du théâtre ?
Pas besoin d'avoir fait du théâtre, aucune inquiétude, tout le monde est le bienvenu.
Et aussi, j'ai remarqué que ces deux spectacles, il y a des, enfin pour ces deux spectacles, il y a des créneaux spécialement réservés aux enfants, aux scolaires. Et donc ça, c'est, enfin, vous accordez une grande place à la culture pour les enfants, à la paillette.
Oui, on travaille énormément avec les établissements scolaires. Donc effectivement, on a beaucoup de spectacles où on propose des séances en journée qu'on réserve au point de départ pour les établissements scolaires. Et puis après, en fonction des places disponibles, on ouvre à tout le monde s'il y a des gens qui souhaitent venir plutôt en journée qu'en soirée. Mais effectivement, on travaille avec énormément d'établissements scolaires, que ce soit des collégiens, des lycéens ou même des universités, que ce soit en soirée ou la journée.
Et en plus donc, de ces spectacles pour les enfants, vous organisez aussi des stages. C'est bien ça, comme par exemple le stage marionnette qui aura lieu du 10 au 13 février. En quoi est-ce que ça consistera ?
C'est ça. Alors, pendant les vacances scolaires, on propose des stages pour les enfants. Donc là, le stage marionnette, l'idée, c'est pendant 4 jours de venir construire, fabriquer et donner vie à sa marionnette avec Isabelle Legros, qui est une comédienne et marionnettiste rennaise, qui viendra aider, accompagner les enfants à créer leur marionnette et puis à les faire vivre ensuite, leur raconter des histoires. Puis à l'issue des 4 jours de stage, l'idée c'est qu'ils puissent montrer, s'ils le souhaitent, aux parents et aux frères et sœurs ce qu'ils ont traversé avec leur groupe et leur marionnette pendant la semaine.
Ça permet aussi en quelque sorte d'initier au théâtre en soi, au
jeu. Ça. Ça permet d'initier au théâtre, au jeu et puis au jeu spécifique qui est le jeu avec une marionnette, c'est-à-dire qu'on est soi-même en jeu, mais aussi caché un petit peu derrière sa marionnette. Donc du coup, c'est soi et pas soi qui est mis en difficulté, je dirais. Donc ça peut permettre de se cacher un peu derrière sa marionnette et puis en même temps de pouvoir jouer et de s'initier au théâtre.
Et quel est le public, enfin je veux dire, quelle est la tranche d'âge pour les enfants pour ce stage ?
Alors sur ce stage-là, on est plutôt sur des primaires, grands primaires. Il y a toutes les infos sur le site, je n'ai pas la tranche d'âge exactement en tête, okay. Je vous dirai des bêtises. mais en tout cas, il reste de la place. Les inscriptions commencent à arriver là, gentiment, parce que en général, les inscriptions ont lieu plutôt entre deux périodes de vacances scolaires. Donc si vous êtes intéressé, si vous avez des enfants dans votre entourage qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous contacter rapidement. Et puis, c'est pareil, il y a des tarifs accessibles en fonction des coefficients familiaux et des revenus. Donc, n'hésitez pas à regarder tout ça sur notre site.
Mmh. Ensuite, le 18 février, enfin, j'ai plus la date exacte, mais je crois que ça commence ou ça termine le 18 février. Il y a le stage Désobéir en fanzine avec Séverine Laurent, si je ne me trompe pas, et le collectif Les Mauvaises Filles. Donc qu'est-ce qui va se passer dans ce stage ?
C'est ça. Alors là, c'est 3 jours de stage, effectivement, à partir du 18 février, du 18 au 20 février. C'est bon, il y avait un jour dans la période. Là, on est sur un stage plutôt pour les pré-ados, je dirais 12-15 ans. Et l'idée, c'est le fanzine, c'est un petit magazine illustré, je dirais, qui peut être à base d'illustrations que l'on crée soi-même, mais aussi de collages, de montages, etc. Et le collectif Les Mauvaises Filles, c'est un collectif d'artistes plasticiennes qui travaillent beaucoup autour de la BD et des illustrations, et qui là proposent, et qui ont monté un collectif qui s'appelle Les Mauvaises Filles, sur la question de désobéir, comment on désobéit. Alors il n'y a pas besoin d'être uniquement une fille pour assister au stage, il n'y a pas de souci, on peut... C'est ouvert à toute personne. Et l'idée, c'est de créer sa petite revue de désobéissance. Soit en illustration, soit en collage, avec des montages, etc. Et donc, les filles, elles seront 3 à intervenir, vous accompagneront les jeunes à la création de cette petite revue éphémère, je dirais.
Et donc, voilà pour le mois de février. Ensuite, il me semble que vous avez déjà des choses de prévues pour les mois à venir. Est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots ?
Oui, la suite de la programmation de spectacles continue. On aura encore 3 spectacles sur la suite de la saison. Au mois de mars, Une bête au paradis. Je vais citer les titres des spectacles et puis j'invite tout le monde à aller regarder parce que sinon je pourrais vous en parler un certain temps. Donc il y a Une bête au paradis de la compagnie Le Grand Appétit, qui est une compagnie des Côtes d'Armor. C'est une adaptation du roman de Cécile Coulon, du roman du même titre. Donc si vous avez apprécié ou si vous souhaitez découvrir le roman de Cécile Coulon, n'hésitez pas. Après, on a le spectacle Euphrate, qui est un seul en scène, de Neil Bosca, qui aura lieu au mois de mars également. Et puis, on terminera la saison de spectacles de compagnie professionnelle par l'accueil de l'accouché de la compagnie rennaise La Dude dans le cadre du festival Mythos. Et la saison n'est pas finie. À partir du mois de mai, on enchaîne sur le Festival des Envolées, le Festival des Pratiquants Amateurs, avec 5 week-ends de création par des amateurs, des ateliers de la paillette essentiellement sur le grand plateau. Mais ce sera peut-être l'occasion d'un autre rendez-vous pour vous présenter tout ça.
Absolument. Et donc, si quelqu'un est intéressé par une de ces sorties, toutes les informations sont sur le site, c'est ça ?
Toutes les informations sont sur le site. On a un Facebook, un Instagram, n'hésitez pas à aller fouiller également. La billetterie est en ligne. Si vous êtes bénéficiaire de la carte sortir, vous pouvez venir directement à la paillette pour réserver vos places. Pas besoin de passer par la billetterie, la billetterie en ligne. Mmh. Et puis, si vous avez la moindre question, j'ai des collègues à l'accueil qui seront ravis de vous répondre.
Ben, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Un petit mot sur les envolées, non ?
Ah oui, les envolées.
On a le temps.
Ah oui, et puis je trouvais que ça collait très bien avec ta dépêche tout à l'heure. On est sur une thématique qui s'appelle la fabrique du mensonge. Donc voilà, l'idée des envolées, c'est un festival. On a une soixantaine d'ateliers à la paillette. Chaque atelier crée un spectacle, que ce soit en danse ou en théâtre. Et l'idée du festival, c'est que tous les ateliers, que ce soit les plus petits à partir de 6 ans jusqu'aux plus âgés, montrent leur spectacle, jouent leur spectacle dans des conditions proches du professionnel, c'est-à-dire qu'il y a un technicien lumière qui vient travailler avec eux pour faire une création lumière. Et donc, on s'embarque sur une quarantaine de levées de rideaux pendant 5 week-ends, pendant le festival. Et tous les ateliers travaillent cette année sur une thématique qui est la fabrique du mensonge. Mmh. Donc il va y avoir du vrai, du faux.
Ce
c'est ça.
Mmh. Et ça se passe quand ?
Ça se passe à partir du 8 mai. Okay. Pour les étudiants s'envol. Donc ça, c'est il y a un premier week-end dédié aux étudiants, aux ateliers théâtre étudiants, donc le 8-9 mai. Et puis, à partir de fin mai, on embraye sur les groupes non étudiants qui joueront à partir de fin mai jusqu'à fin juin.
On en reparlera de toute façon dans 6 heures avant minuit. Merci beaucoup d'être venu nous présenter la preuve de la paillette.
Merci beaucoup.
6 heures avant minuit.
Une fois par mois, c'est la chronique Laisse béton de Cyriane. Ce mois-ci, Cyriane, tu vas nous parler du concept de ville archipel, mais qu'est-ce que c'est ?
Exactement. Alors déjà, salut everybody, tout le monde. C'est mardi, c'est bientôt week-end, mais c'est surtout l'heure de Laisse béton, comme tu l'as dit. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du modèle urbain unique de notre métropole rennaise. Ce modèle, c'est celui de la ville archipel, une expression créée par Philippe Le Tourtelier, le maire d'une commune métropolitaine entre 1983 et 2008, la Chapelle des Fougerets. Mais ce n'est pas lui qui va la populariser, cette expression. C'est Jean-Yves Chapuis, sociologue, urbaniste et ancien élu à Rennes Métropole et professeur en urbanisme dans tout plein d'écoles.
Mais d'abord, en fait, ça consiste en quoi la ville archipel ?
Eh bien, en fait, c'est tout simple. Alors, pour me suivre, c'est tellement simple que si vous le pouvez, je vous invite à prendre une carte de la métropole, vu que je sais que tout le monde en a une sous le bras, ou à ouvrir votre application Maps, Google Maps, enfin bref, vous avez capté. Alors, du coup, vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais Rennes est ceinturée par sa rocade circulaire aux multiples sorties et entrées, la reliant aux différents axes routiers menant aux communes. Ce qui lui donne, vu du dessus, cette forme particulière d'un dessin dessiné par un enfant de 4 ans. Mais ce n'est pas la seule ceinture que la ville a dans sa garde-robe, puisqu'elle elle en a aussi une verte. Vous l'aurez compris, je parle donc ici de terres agricoles et de nature. Un cercle représentant 10 km de champs séparant la grande ville des 42 communes métropolitaines. Voilà, donc c'est ça la ville archipel, l'idée que Rennes est sortie de ses remparts, la rocade, et que ces petits bouts de ville, les communes, sont entrecoupés par de la nature. Et ce modèle, croyez-le, il est unique en France, mais car il permet d'éviter, et si, de façon efficace, l'étalement urbain.
Et comment a-t-il été rendu possible, Jamy ?
Eh bien, alors, Jamy va te répondre. Alors, ça mélange plusieurs raisons historiques, mais donc aussi, évidemment, politiques. au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la France doit se reconstruire. À partir de 1967, on considère déjà que le pays est rebâti et s'enchaînent alors les Trente Glorieuses, une période motivée notamment par l'envie d'amener l'être humain vers le progrès. L'an 2000, devenant une perspective concrète pour s'engager dans des projets d'idéal urbain. Dans ce contexte, Rennes se voit elle aussi dotée d'un de ses plans de développement. Son ambition, faire de la capitale prétilienne une ville tournée vers une croissance où activité économique et industrielle privilégie les technologies de pointe. De quoi en faire une agglomération fonctionnelle et nouvelle. Et parmi les mesures prises au sortir de la guerre, immédiatement, il y a l'achat de terres agricoles bordant Rennes. Ce qui permet trois choses. Contrôler le développement urbain, maîtriser le prix des loyers, organiser la redistribution de ces terres fertiles à de jeunes agriculteurs et agricultrices. C'est la fameuse ceinture verte, un projet politique écolo avant l'heure puisqu'il permet de renforcer de nos jours l'équilibre entre l'activité humaine et la nature. De quoi se sentir en vacances dans sa ville pour Jean-Yves Chapuis. Car ce n'est, je cite, pas que réservé aux touristes. Mais ce n'est pas la seule mesure qui va changer le territoire. Henri Fréville, maire rennais de 1953 à 1977, aborde ainsi pour la première fois l'idée de créer une coopération intercommunale de l'agglomération. En clair, la métropole est née, mais se nomme à l'époque Rennes District. Oula. Et voit le jour officiellement le 9 juillet 1970.
Il y avait des robots aussi.
C'était le futur, l'an 2000 et tout. Attends.
On dirait un nom de groupe.
J'avoue. RPZ, Rennes District. Bref, ce district à l'époque, il compte alors 27 communes. Aujourd'hui, ce modèle a permis de densifier la ville, son nombre de logements, ses services, tout ça, tout en la gardant à l'intérieur de sa rocade sans l'étaler. D'ailleurs, fun fact, 78% du territoire de Rennes Métropole, c'est de la nature. Mais ce qui la rend archipel, cette ville, donc, c'est la place de ses communes, qui sont reliées par le réseau de transport en commun au centre. Pour Jean-Yves Chapuis, ces petits centres urbains s'articulent pleinement autour de Rennes, mais réussissent à garder leur identité et leur indépendance, ne les rendant donc pas des villes dortoirs. Pour lui, ces bouts d'archipel suivent tout simplement l'évolution sociologique des lieux d'habitation de chacun et chacune. Lorsque l'on est jeune, on habite dans le centre, et lorsque l'on fonde une famille, on cherche de plus en plus de tranquillité et d'espace. On déménage donc en périphérie, à Verne-sur-Sèche, à Passé, je sais pas où vous voulez, bref, une petite commune quoi. Puis, lorsque l'on est vieux et seul, on désire retourner dans le centre. Bye bye, la grande maison et le grand jardin dont on ne trouve plus l'utilité ou le temps de s'en occuper. Un phénomène qui tente à se développer puisque l'espérance de vie augmente. Il explique ce point par cette statistique. 47% des ménages rennais sont occupés par une seule personne. Enfin, il y a l'aspect politique de la ville archipel. Car une ville ou une métropole, c'est une société qui nécessite donc de la démocratie. Un principe que Jean-Yves Chapuis dénomme la double citoyenneté, celle de sa commune et de la métropole. Pour terminer, je reprendrai ces mots, la ville n'est pas technique, mais humaine. Bref, elle se façonne à travers les époques, selon les usages et surtout ce que l'on veut y ressentir.
Waouh, merci Cyrène, je me sens déjà vachement plus intelligente
à
partir de tout ça. Mais nos Bretons ont vraiment du talent. Deux petits messages avant qu'on se quitte.
Téléphone.
Allô.
Allô.
Syllab, la radio sauvage.
Message numéro 1 qui ne provient pas de notre répondeur qui est vide aujourd'hui. Pour le remplir, vous pouvez appeler le 02 30 96 25 35 et dire tout ce qui vous passe par l'esprit. Vous lâcher, nous proposer des sujets, revenir sur ce dont on a parlé, bref, soyez imaginatifs. Message numéro 2, deux jeux concourants en ce moment. Alors,
deux.
D'abord.
Deux.
Ouais,
oh, wow.
On a nos limites là.
Quelle
c'est
générosité.
Mois de janvier, on commence 2025, bien. Alors, Syllab vous offre d'abord des places pour deux événements du festival de danse Waterproof qui commence dès le 17 janvier. En jeu donc, deux places pour Rupture de Mercedes Dessy, ça se passe le 29 janvier. Et deux places pour la soirée Let's Dance Waterproof à l'Ubu avec la Reine des Voyous au platine. Pour jouer et gagner, vous aurez besoin d'un mot de passe qui est triangle. Pas rond, pas carré, triangle. Voilà, wow. Comme la cité de la danse rennaise. Deuxième jeu, donc, pour le festival Autre Mesure qui a lieu en ce moment. Vous pouvez gagner deux places pour la conférence sur rien de John Cage, lue par Jérôme Bell. On en a parlé en interview hier. Voilà, une conférence sur rien qui parle de
rien.
Voilà, tout un programme.
Nada.
Ça vous donne envie, non? Alors, jouez, le mot de passe est, du coup...
Il n'y a pas de mot de passe.
Bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci Marilyn pour la technique. À demain dans 6h avant minuit.
Exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllabe, la radio sauvage.